L'heure du journal de Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Des pratiques jadis tolérées ne le sont plus. C'est la réaction ce matin du Premier ministre Édouard Philippe après la décision de Michel Mercier de renoncer à son siège au Conseil constitutionnel hier. Une semaine après les révélations du canard enchaîné et l'ouverture d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, le sénateur du Rhône est soupçonné d'emploi présumé fictif pour au moins une de ses filles embauchées en tant qu'assistante parlementaire. Alors qu'aujourd'hui la session extraordinaire s'achève à l'Assemblée nationale avec le vote justement du projet de loi pour la confiance dans la vie politique. Nicolas Hulot doit présenter ce matin un plan de gestion de l'eau lors du dernier Conseil des ministres avant la rentrée. Le ministre de la Transition écologique doit annoncer des mesures face à la sécheresse qui touche des dizaines de départements français depuis le début de l'été. Les agriculteurs en sont à la fois les victimes mais aussi responsables puisqu'ils consomment énormément d'eau. Reportage de Marina Cabiden près de Rethel dans les Ardennes.
Vaches, cochons, moutons, ici les bêtes disposent d'une centaine d'hectares et la même surface est dédiée à faire pousser leur nourriture. Mais pour sa première année à travailler sur l'exploitation de son père, Sophie est témoin d'un triste constat.
Les vaches sont en pâture et elles n'ont pas grand-chose à manger. On a eu beaucoup de mal à faire la première coupe du foin. On aura beaucoup de mal à faire une deuxième coupe. Les années où tout va bien, il y a trois coupes.
Trois coupes qui correspondent à 6 tonnes de foin, mais il n'y en aura pas plus de 3 cette année à cause de la sécheresse. Gilles Gambier est agriculteur depuis 1976. Justement, une année de sécheresse sévère, mais à l'époque exceptionnelle.
On coupait des arbres pour donner à manger aux vaches, etc. C'était les prémices. Arrivé une fois en 76, c'est arrivé une nouvelle fois en 2003. Donc on s'est dit, allez, ça arrive une fois tous les 30 ans et puis on est bien. Mais là, on est dans un déséquilibre complet parce qu'on voit qu'il y a des perturbations qui arrivent, mais qui ne durent pas. Vous êtes venu sous la pluie, il y a déjà du soleil.
Contrairement à Gilles, certains agriculteurs autour de lui ne croient pas au changement climatique.
Donc ils pensent que la pluie va revenir, que ça va se remettre bien et que les nappes phréatiques vont se recharger comme ça naturellement. Et puis bon, qu'il y a tout un écosystème. Quand je dis écosystème, c'est économique système, hein, c'est pas écologique système. L'économique système leur dit, ben non, allez-y, c'est vous qui avez raison, il va repleuvoir, continuez à travailler comme ça et puis tout va bien.
Les vendeurs de produits chimiques feraient donc obstacle au changement de pratique qui aiderait l'agriculture face au réchauffement. L'espoir de Gilles pour le plan de Nicolas Hulot est qu'il ne soit pas influencé par les lobbies.
La croissance de l'économie française devrait atteindre 0,5% au troisième trimestre, soit le même rythme que celui enregistré lors des 3 mois précédents, selon une évaluation de la Banque de France ce matin. Dans l'actualité internationale, l'escalade verbale continue entre Washington et Pyongyang. Donald Trump promet une puissance de feu telle que le monde n'en a jamais vu en cas de nouvelles menaces de la part de la Corée du Nord, selon les mots du président américain hier soir. Quelques heures plus tard, Pyongyang déclare examiner soigneusement un projet de frappe sur le territoire américain de l'île de Guam dans le Pacifique. En Israël, un soldat condamné pour avoir achevé un Palestinien arrive en ce moment même à la prison pour effectuer sa détention, alors que l'armée israélienne a bombardé hier des sites du Hamas sur la bande de Gaza, faisant 3 blessés en représailles à un tir de roquette un peu plus tôt dans le sud d'Israël. Israël et le Hamas qui observent un cessez-le-feu fragile depuis la fin de la guerre de 2014. C'était il y a 10 ans, la crise des subprimes, crise des prêts immobiliers à haut risque éclatée aux États-Unis avant de contaminer l'ensemble de l'économie mondiale. 10 ans plus tard, est-ce qu'une telle crise est à nouveau possible ? À Washington, précision de Philippe André.
Il y a évidemment toujours le shadow banking, la finance de l'ombre qui qualifie les opérations cachées par les banques. Il y a évidemment toujours les effets de levier qui permettent d'investir plus d'argent qu'on en a dans le portefeuille. Mais aux États-Unis, les spécialistes sont quasi unanimes. Les régulations instaurées après la crise ont quand même très nettement assaini les pratiques. Des régulations, des réglementations mises notamment en place par l'administration Obama qui énervent profondément Donald Trump et ses proches. De très nombreux républicains veulent assouplir les contraintes qui, selon eux, freinent la croissance, quitte à prendre le risque de faire exploser la bulle. C'est le cas de Kenneth Weinstein, président de l'Hudson Institute, un think tank proche du parti républicain.
Il va y avoir des bulles, ça c'est bien normal, c'est l'économie. Le problème maintenant, c'est qu'il y a trop de règles. On a créé vraiment une montagne de réglementation qui nuit à l'économie, à l'activité économique. La décision de réduire la réglementation, c'est certainement la vision républicaine de l'économie. Il faut absolument continuer dans cette direction.
Une direction qui convient à Donald Trump, qui se félicite régulièrement des records du Dow Jones portés par la solide santé des grosses entreprises américaines et par le taux de chômage, 4,3%, son niveau le plus bas en 16 ans ici aux États-Unis.
Philippe Randé, le correspondant de France Culture à Washington. Le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies dénonce des arrestations arbitraires et un recours excessif à la force au Venezuela, alors qu'hier, 12 pays d'Amérique ont signé un texte commun dénonçant notamment la rupture de l'ordre démocratique du régime de Nicolas Maduro avec la mise en place de l'Assemblée constituante. Au moins 13 morts et 175 blessés dans le sud-ouest de la Chine dans un séisme de magnitude 6,5 qui a frappé cette nuit la province du Sichuan. En France, l'accès aux archives nationales devient gratuit. Un passage à l'open data dans la droite ligne de la loi pour une république numérique. Le ministère de la Culture s'est engagé dans une politique d'ouverture et de partage des données publiques, notamment pour permettre aux citoyens de participer à l'amélioration de la qualité de ces données. Une petite révolution pour une institution qui collecte les données de l'État et de ses émanations depuis le 7e siècle, Laure Verneau.
Oui, jusqu'à il y a quelques jours, réutiliser des informations issues des archives nationales n'était pas gratuit. Le tarif dépendait d'abord du support des informations publiques, fonds de cartes, vidéos, documents à télécharger, et leur réutilisation sur Internet dépendait du nombre de vues. Par exemple, de 1 à 100 000 vues, il fallait verser 35 centimes d'euros par an, par reproduction ou par téléchargement, sur le site des archives. Au-delà du million de vues, le prix passait à 4 centimes d'euros. Mais tout ça, c'est fini, place aux données ouvertes, à l'open data, un mouvement, une philosophie d'accès à l'information et une pratique de publication de données librement accessible et exploitable par chaque citoyen. Cette tendance considère l'information publique comme un bien commun, dont la diffusion est d'intérêt public et général. En d'autres termes, c'est la gratuité qui prime à deux exceptions près. Si des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle, la réutilisation est soumise aux conditions imposées par ces titulaires. Autre restriction, lorsque les documents détenus comportent des données à caractère personnel, c'est le passage obligé devant la CNIL. Les seules contraintes sont celles de respecter l'intégrité des informations, d'en préciser l'origine, c'est-à-dire archives nationales, date, référence, auteur et le titre du document s'il y a lieu. Dans ce cadre, les Archives de France et les Archives nationales ont publié un corpus librement réutilisable sur la plateforme du ministère de la Culture. On peut le trouver à l'adresse data.culturecommunication.gouv.fr.
Laure Verneau, 5 entreprises françaises qui fabriquent des produits à base d'œufs sont désormais touchées par le scandale des œufs contaminés en provenance de Belgique et des Pays-Bas. C'est ce qu'a annoncé hier soir le ministère de l'Agriculture. Le temps, de la pluie en majorité sur la moitié ouest du pays dès ce matin, une tendance qui se confirme cet après-midi avec des orages attendus également sur le nord. Température fraîche avec un minimum de 10 degrés sur la Bretagne, 12 à Dijon, 17 à Bordeaux et Poitiers, 20 à 25 degrés au bord de la Méditerranée ce matin, 17 à 29 degrés cet après-midi du nord au sud. Il est 9h et presque 8 minutes sur France Culture. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue et Mathilde Julien. Prochain rendez-vous de l'information à 12h30 avec Anne Fauquemberg.